Alors ce matin, j'aimerais vous raconter une histoire que je vous ai déjà racontée, mais peut-être tout le monde ne l'a pas entendue. Et elle m'amuse toujours. Alors, en fait, c'est un fermier américain qui est venu en France et qui s'est donc promené dans ce beau pays. Et il a eu l'occasion de rencontrer un fermier français. Et alors il lui a raconté que chez moi, aux États-Unis, il me faut toute une journée pour faire le tour de ma ferme avec ma voiture. Et alors le fermier français lui a répondu « Ah oui, moi aussi j'avais une voiture comme ça. » Alors je suis en train de récolter le maïs et puis je suis un peu dans les surfaces et dans les trucs comme ça, c'est pour ça. Mais en fait, parfois Jésus vient nous parler de vie, il vient nous parler d'abondance et nous disant « Oui, je connais, parce qu'on a nos petites références à nous. » Et en fait, si on peut ce matin juste être ouvert à toute la dimension que Dieu a pour nous, quand il nous parle de vie, que nous ne soyons pas limités par nos raisonnements, mais que nous puissions vraiment accueillir ce qu'il a pour nous. Alors j'aimerais continuer par rapport au message que j'avais commencé en août sur la gouvernance de soi. Et avant de passer, donc pas aujourd'hui, à la gouvernance familiale, j'aimerais revenir un peu sur ce thème. Alors il y a, donc c'est un peu en relation avec la formation qu'on a faite avec Pierre Bonin sur les enseignements de Denis Peacock. Et donc il y a Béatrice qui est là, qui fait la deuxième session. Et donc elle va pouvoir me corriger si jamais. Donc il distingue cinq niveaux de gouvernance. Donc la gouvernance de soi, la gouvernance familiale. Alors la gouvernance de soi, c'est on arrive à le comprendre, hein, c'est de prendre nos responsabilités, c'est ce qu'on est, nous, en devoir de faire, gérer notre vie, la prendre en main. La gouvernance familiale, c'est la famille, c'est une autre dimension de gouvernance, et je me réjouis d'en parler plus tard, mais il est clair qu'il y a une interaction, c'est dans la famille qu'on apprend aussi la gouvernance personnelle. En principe, c'est là qu'on reçoit une éthique, qu'on reçoit une morale, qu'on reçoit une éducation, et ce qui nous aide après, par la suite, à nous prendre en main, à devenir autonome. Il y a la gouvernance de l'Église qui correspond, en fait, l'Église, le but de l'Église, c'est d'éduquer, d'enseigner le peuple dans les voies de Dieu. Et il y a la gouvernance civile, donc le pays. Enfin, c'est tout ce qui concerne la paix dans le pays, le fonctionnement d'un pays pour que ça se passe bien entre les différentes communautés, entre les différentes personnes. Et aussi le gouvernement commercial qui gère des lois spécifiques à tout ce qui est commerce, échange, travail, les législations du travail, tout ça. Alors c'est bien d'avoir conscience de ça parce que peut-être qu'on ne sera jamais en charge du gouvernement civil, mais en tant qu'individu, parfois nous attendons du gouvernement civil ce que nous devons faire nous-mêmes en tant que personne. Et peut-être c'est quelque chose qui est assez courant quand même, qu'on se décharge facilement sur les autres. C'est l'Église qui n'est pas comme ça ou comme ceci, ou c'est le pays et les gouvernants qui ne sont pas ce qu'il faudrait, ils ne font pas ce qu'il faut. Alors c'est peut-être vrai parfois, mais en tout cas, nous sommes à la base du changement en tant qu'individu. Le changement commence par nous. Si on attend que le changement commence autour de nous, alors nous attendons longtemps et peut-être qu'il y aura des changements, mais pas à la hauteur de nos attentes. Et j'avais une image aussi que j'ai vue sur Internet, c'était un orateur qui demande qui veut le changement ? Tout le monde lève la main. Qui veut changer ? Personne ne lève la main. Et c'est un peu la réalité des choses. Et en fait, Jésus, il cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à se prendre en charge, à être des hommes faits, des femmes qui soient matures, qui puissent vraiment apporter le changement dans la société, que le royaume de Dieu puisse avancer. Alors, c'est pas à l'Église de le faire, c'est pas au pays, au gouvernant de le faire, c'est à nous de commencer à l'intérieur de notre personne, dans notre cœur, dans nos familles, etc. Alors la gouvernance de soi, c'est un peu là aussi où on a On sait parfaitement ce que les autres devraient faire, mais on n'a pas toujours conscience de ce que nous devrions faire. Donc c'est là où nous définissons en fait l'éthique que nous avons, la morale, et dans notre société, on se rend bien compte que les comportements des individus sont parfois déplorables. On voit des choses très farfelues, comme ceux qui veulent enlever les cigales dans le sud parce que ça fait trop de bruit, ou ceux qui veulent enlever les cloches des vaches dans les montagnes, etc. Donc, c'est des choses parfois un peu farfelues. Mais je fais juste une parenthèse. Quelqu'un m'a demandé, mais au fait, pourquoi on met des cloches aux vaches ? Alors, je peux pas tout expliquer, mais en tout cas, quand j'étais enfant, j'allais dans la montagne, dans la ferme de mes grands-parents. Et le matin, à l'aube, il fallait chercher les vaches dans les prés pour les traire. Et c'était bien pratique de les entendre avec les sons des cloches pour pouvoir les chercher au bon endroit. Sinon, on aurait fait toute la montagne pour trouver. Donc c'est peut-être tout bête, mais il y a peut-être d'autres explications. Alors on peut aussi mesurer la santé d'une nation, la santé morale, au nombre de lois qu'elle doit voter pour que ça fonctionne bien. Alors normalement, on n'aurait pas besoin de toutes les lois si les gens avaient un peu de gouvernance personnelle. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je prends juste un exemple. Quand je vais dans une parcelle, je dois traverser une forêt. C'est un chemin de cailloux. Et au bout du chemin, le chemin tourne à gauche, il traverse un petit pont, il y a une petite rivière, et ça donne sur une clairière avec l'herbe verte et tout, c'est joli. Et quand on arrive au niveau du pont, il y a un panneau rouge, défense de déposer des ordures. Alors je me dis, c'est quand même incroyable. À qui il viendrait à l'idée de déposer des ordures dans un endroit pareil ? Et pourtant, il faut mettre un panneau parce que sinon, il y a des ordures. Alors c'est un peu ce genre de choses qui montrent où en est le niveau de gouvernance personnelle. Après, il y a des choses bien plus dramatiques aussi quand on entend qu'un père de famille a été battu à mort pour une place de parking. Donc ça, c'est toutes des choses qui normalement n'auraient pas besoin d'être réglementées si nous appliquions les choses que Dieu nous parle dans sa parole. Alors chacun a ses critères, chacun a ses degrés de moralité. Et la Bible parle aussi que, en fait, l'apôtre Paul parle de ceux qui vivent selon leur penchant naturel. Et c'est un peu notre habitude aussi de vivre selon nos penchants naturels. Même si nous sommes chrétiens, nous avons besoin de chaque fois nous mettre sous la lumière de la parole de Dieu, de laisser le Saint-Esprit nous parler. Dans les juges, il est dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et j'ai une fois entendu dans une conférence quelqu'un qui citait ce verset en disant « que c'est bon ainsi ». Alors j'étais un peu halluciné de me dire « mais quel est le rapport avec la Bible de faire dire à un verset que finalement c'est bon que chacun fait comme ça lui plaît ?» Alors j'ai retenu une phrase très importante que je vous dis, que je vais vous redire peut-être. La pensée justifie ce que le cœur a choisi. Alors, je répète, hein. La pensée justifie ce que le cœur a choisi. En fait, ce que nous pensons, ce que nous réfléchissons, à la base, on a décidé quelque chose. Alors, ça peut être c'est vrai sur n'importe quoi. Hein. Vous avez un problème de santé et on vous dit que tel ou tel produit est génial, tu verras. Et alors, si tu as envie d'y croire, dès qu'il y a un petit truc qui va mieux, tu vas dire « Ah ouais, ça marche ce truc ». Et alors, tu vas classer les choses que tu as remarquées, qui vont conforter ce que tu as décidé de croire. Et plus tu trouves de choses qui confortent, plus finalement tu crois. C'est pareil dans les essais que je fais au niveau des chants. À la base, j'ai un a priori positif ou négatif sur quelque chose. S'il est positif, je vais dire « Ah ouais, on voit quelque chose là, c'est mieux. » Ou au contraire, « Ah, on n'a rien vu. Non. » Je ne sais pas si vous avez ce genre de réflexion dans le courant de la journée ou de la semaine. Nous avons choisi de croire Jésus-Christ. Nous avons choisi de croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur terre, qu'il a donné sa vie, afin que nous ayons la vie en abondance, afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Et dans ce sens-là, nous avons fait ce choix, et donc forcément nous allons lire la parole de Dieu comme la source d'inspiration qui vient de Dieu. Si nous croyons au contraire que Dieu n'existe pas, nous allons lire la Bible et nous allons souligner toutes les incohérences que nous allons trouver. Et nous allons nous contenter alors de ce que nous avons trouvé. Nous faisons des classeurs dans notre cerveau. On a une bibliothèque pleine de classeurs de toutes les choses que nous avons accumulées au courant de notre vie et qui confortent ce que nous croyons. Et en fait, quand nous croyons en Jésus-Christ, il vient un peu renverser tous ces classeurs et nous sommes obligés de reprendre un peu du début. Mais pourquoi je crois ce que je crois? Pourquoi je me comporte de telle manière? Et de rechercher dans cette communication avec Dieu, de remettre les choses dans l'ordre. Alors il y a aussi ce verset qui dit, par exemple, dans Deutéronome 30, 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » C'est un choix. Nous devons choisir quelque chose pour construire. Et je fais cet exercice, et peut-être Béatrice, tu te souviens aussi de début, c'est un exercice qu'on doit faire. Le lundi matin, ça commence de choisir la vie. Et quand on fait cet exercice de choisir la vie, on se rend compte combien de fois dans une journée on choisit la mort. Ça a l'air brutal comme ça, mais quand même, quand on est dans une situation et qu'on dit « j'en ai marre », parce que de toute façon ça ne va jamais marcher, ben je fais un décret de mort sur quelque chose. C'est peut-être bête, mais c'est comme ça. Et en faisant cet exercice, je me suis rendu compte que souvent je suis dans des situations ben où c'est à moi de choisir. Je choisis dans les relations, dans ce que je fais, dans le travail. Ben j'ai le pouvoir de choisir la vie. Et quand je choisis la vie, Dieu donne la vie. Alors c'est peut-être simple, mais c'est un exercice qu'il est important de pratiquer. Il y a aussi ce chant qu'on chantait en chantant encore parfois à table, « Compte les bienfaits de Dieu ». C'est aussi un choix. Vous pouvez choisir de compter tout ce qui ne va pas et de vous dire bah, « Tu vois tout ce qui ne va pas ?» Et alors tu viens me dire que Dieu est bon. Mais tu peux aussi choisir de commencer à compter toutes les choses que Dieu te donne. Le matin de se lever, je suis en vie. Merci Seigneur pour cette journée. Merci, c'est toi qui l'as créée. C'est toi qui as des projets pour moi, etc. De compter, et en les ajoutant, on se rend compte, c'est vrai, Dieu est bon. Donc le choix que nous faisons détermine aussi comment nous allons vivre les choses. Alors tout d'abord, la gouvernance personnelle, c'est notre cœur, c'est le lieu de la réconciliation avec Dieu, avec le Père. Ce n'est pas en tant que groupe qu'on se réconcilie, c'est vraiment en tant qu'individu que ça commence. On peut participer dans un groupe à des temps de réconciliation, mais la réconciliation avec le Père, elle se fait dans notre cœur. Dans Jean 1, verset 12, il est dit que la lumière est venue. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce genre de verset me réjouit parce que vraiment, il y a quelque chose que Dieu fait qui nous dépasse. Et c'est simplement à cause de notre décision que Dieu met en œuvre des choses vraiment incroyables. Nous avons été ensevelis, alors c'est dans Romains 6, nous avons été... 6, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. » Dieu met en œuvre vraiment une puissance extraordinaire pour que nous puissions vivre une vie nouvelle. Et c'est vraiment le but de Dieu, c'est que nous puissions marcher dans une nouveauté de vie. Et c'est pour ça que cette gouvernance personnelle est tellement importante. C'est à nous de nous engager afin que Dieu puisse mettre en œuvre tout ce qu'il a prévu pour nous. Alors, je vous avais parlé à un culte, juste une réflexion sur le fait que l'amour de Dieu pour Jésus est en nous. Alors, je n'ai plus retrouvé la référence de ce verset. Mais je vous disais que ça me fait rêver quand même, l'amour de Dieu pour Jésus. Alors, c'est un peu comme quand on se couche la nuit sous un ciel étoilé et qu'on commence à réfléchir à l'immensité des choses et au Créateur, à moi comme je suis petit. Mais quand je prends cette dimension entre Dieu et son Fils, c'est quelque chose d'énorme. Et ce qui est énorme là, entre les deux, ben, c'est aussi en moi. Alors je ne sais pas si ça vous touche, moi ça m'ébranle, je me dis mais c'est énorme quoi, c'est pas juste. Dieu vous aime, tout le monde... C'est vraiment cet amour exceptionnel entre Dieu et le Père et le Fils, il est aussi en moi. Alors, Jean 17. Alors, j'ai cherché longtemps, mais ouais, tu peux le dire? Oui. Ben voilà, ouais, dans Jean 17. En tout cas, c'est quelque chose qui me fait réfléchir, méditer. C'est un peu comme le verset qui dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts est en vous. C'est pareil, ça me fait ces perspectives-là, ça me dépasse complètement. Et je me dis, merci Seigneur, vraiment tu déploies des puissances extraordinaires pour moi, pour que je puisse, en tant que personne, marcher dans une nouveauté de vie. Marcher en gouvernance selon la volonté de Dieu. J'ai dit la dernière fois aussi que nous avons besoin d'être transformés pour devenir des fils. Même si nous sommes devenus, parce que Dieu a dit, vous avez reçu le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. En relation avec la parabole du fils prodigue, nous avons vu qu'il y a des fils, enfin deux fils en l'occurrence, qui n'ont pas la mentalité de fils, bien qu'ils soient fils. Et qu'il y a des mercenaires dans cette maison qui sont des fils, enfin qui ont un comportement de fils, bien qu'ils soient mercenaires. Donc nous sommes des fils parce que nous avons cru, mais nous devons laisser le Saint-Esprit nous transformer afin que nous ayons vraiment cette attitude de fils. Donc un fils qui prend ses responsabilités, qui ne se repose pas sur les autres, ou qui ne repose pas les fautes sur les autres, mais qui prend sa responsabilité, qui assume la conséquence aussi des actes que nous faisons, et qui respecte aussi les autorités et les gouvernances que Dieu a mis en place. Alors pour marcher dans cette gouvernance selon le cœur de Dieu, nous avons bien sûr l'exemple de Jésus, qui est le Fils parfait. Et dans Jean 5, verset 19, Jésus reprit la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Donc Jésus ne fait rien qu'il ne voit pas faire au Père, et nous, nous voulons voir Jésus et ne faire que ce que Jésus fait. Alors, c'est un grand programme, hein, je le dis tout de suite. Enfin, en tout cas pour moi, il y a beaucoup de choses encore à changer dans ma vie. Et pour changer un homme, il faut du temps, enfin une femme aussi, je pense. Mais je me souviens, en sortant de l'école de jeunesse en mission, on avait 21 ans, et notre responsable nous conduisait à une conférence, et puis c'était la fin de la formation. Et on discutait de l'après. Et nous, on était en feu, on s'est dit, bah là, on va y aller et tout. Et alors, il nous racontait l'histoire d'un étudiant qui était sorti de jeunesse en mission et qui est retourné dans son église parce que Dieu l'appelait là-bas. Et pendant 20 ans, il était juste dans l'église, sans aucune responsabilité. Et il a été fidèle. Et après 20 ans, le Seigneur lui a donné sa responsabilité. Alors je lui dis, mais non, tu rigoles, jamais. Attends, nous, on n'est plus au temps de Moïse où il faut 40 ans pour former un gars. Nous, il faut y aller tout de suite, là. Et en fait, je me rends compte maintenant, ça fait plus de 30 ans que j'ai encore beaucoup de choses à changer. Et je sais qu'il y a encore quelque chose que Dieu attend de moi, que je n'ai pas encore fait, mais qu'il prépare. Et il est en train de me préparer pour ça. Il faut du temps pour transformer quelqu'un. Mais en même temps, Dieu nous donne une famille ou il nous donne une église qui nous aide. Et je me réjouis aussi dans cette église de ce programme de formation où il y a aussi des vis-à-vis, des personnes qui peuvent accompagner, encourager, écouter. Et c'est vraiment important, nous avons besoin de personnes qui nous aident dans ce sens-là. Et donc, ce que j'avais dit aussi, c'est que quand on devient un fils, la différence entre un fils et un serviteur, c'est que le fils a la loi gravée dans son cœur. Alors qu'un serviteur, il faut encore lui dire ce qu'il doit faire. Et enfin, moi, j'utilise serviteur, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais en tout cas, on le voit aussi dans des entreprises, quand on travaille. Il y a des gens qui ont la mentalité de fils, qui voient ce qu'il y a à faire, qui le font. Il y a ceux à qui on doit toujours dire ce qu'ils doivent faire et qui ne voient pas ce qu'il y a à faire. Après, ça commence dans la famille aussi. Parfois, la famille, c'est un endroit où on apprend la gouvernance personnelle, parce qu'il y a aussi l'obéissance qui est requise. Et on peut aussi apprendre à avoir une attitude de fils dans une famille quand on voit les choses et qu'on les fait. Et dans Hébreux 10, il est dit au verset 16, Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Alors nous avons parfois un peu des problèmes avec la loi parce que c'est l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament. Maintenant, on n'est plus cool, il n'y a plus toutes ces choses. Mais en fait, la loi de l'Ancien Testament, elle juge les actes, alors que la loi du Nouveau Testament, enfin la grâce ou Jésus, il juge les intentions. Alors c'est beaucoup plus high level, hein, c'est une étape beaucoup plus élevée. Donc la question, ce n'est pas d'être débarrassé de la loi ou d'être peinard parce qu'il y a la grâce, c'est simplement que la loi est en nous. Elle est dans notre cœur, elle est dans notre esprit. Et Dieu n'a pas besoin de chaque fois nous dire tu ne tueras point. Alors ça, bon, je pense que c'est acté pour nous, ce genre de choses. Mais Jésus dit, si tu as des mauvaises pensées envers ton frère ou ta sœur, ben, tu es un meurtrier. Donc il y a des choses qu'on peut encore améliorer dans notre façon de vivre. Et donc, marcher dans cette dimension où on n'a pas besoin chaque fois de nous dire. Alors, il y a des domaines de notre vie qui ont déjà passé ce stade. Et je vous ai dit la dernière fois que ce qui n'est pas passé par la croix doit encore être éduqué par la loi. C'est-à-dire, si j'en suis pas au stade de Jésus qui dit, si tu as des mauvaises pensées, si j'ai encore des mauvaises pensées, ben il faut que je reste encore, que j'ai encore besoin de la loi comme tuteur qui me donne une structure de base. Mais en tout cas, nous sommes appelés à aller plus loin dans cette capacité de gouvernance personnelle. Après, le dernier point que je veux aborder avec vous, c'est que dans cette gouvernance personnelle, nous sommes invités à résoudre des problèmes. Et il nous arrive d'avoir des problèmes éthiques que nous n'arrivons pas forcément à régler, et parfois nous allons plus loin sans avoir trouvé de solution. Alors je vous donne un exemple. Dieu est celui qui prend soin de nous, nous avons confiance en lui, et j'ai discuté, alors je donne des exemples, pas d'ici, hein, pas que vous commencez à réfléchir, attends, qui c'est qui. C'est une dame qui m'a dit, donc une chrétienne qui m'a dit, moi, je suis obligé de travailler au noir parce que sinon, j'arrive pas à tourner. Alors, je me dis oui, il y a un problème éthique Parce que normalement, si on a confiance en Dieu, on est capable de mettre les choses en place que Dieu demande. Ou alors j'ai un problème. Donc, c'est quelque chose que nous avons peut-être aussi, c'est des choses auxquelles nous sommes aussi confrontés peut-être. On dit je voudrais bien, mais... Et alors on a un problème à résoudre. Et donc la question c'est, est-ce que je fais confiance à Dieu? Et est-ce que Dieu est digne de confiance? Est-ce qu'il fait ce qu'il me dit de faire? Est-ce que lui, il est fidèle? Donc ça, c'est des problèmes que personnellement, nous devons résoudre. Une fois pour toutes, est-ce que je fais confiance à Dieu? Oui ou non? Est-ce que je peux donner la dîme sans être dans la dèche? Si Dieu me le demande, je peux le faire. Donc, parfois, nous devons trouver quel est le problème dans mon comportement qui m'empêche finalement de mettre en pratique ce que la Bible demande. Après, je prends un autre exemple qui nous concerne aussi, c'est les enfants. Alors là, forcément, je parle de nous parce que on peut pas se téléporter en dehors. Mais l'obéissance des enfants, comment est-ce qu'on gère l'obéissance des enfants? Et c'est un problème que nous devons résoudre en tant qu'individus quand nous avons des enfants. Est-ce que nous arrivons par la manipulation, par l'intimidation? Et ça a souvent été des discussions dans notre couple. Comment on arrive à l'obéissance, à obtenir l'obéissance des enfants? Alors il faut bien être conscient que quand nous trouvons des solutions dans ces problèmes personnels, spécifiques, ces solutions vont fonctionner dans d'autres domaines. Si j'arrive uniquement à avoir l'obéissance de mes enfants par la force, par l'intimidation, forcément quand je serai en position d'autorité dans d'autres domaines, au travail, à l'école, à l'église, je vais obtenir les choses de la même manière. Est-ce que vous comprenez? C'est un fonctionnement que nous avons. Donc si je n'ai pas trouvé la solution avec mes enfants, je vais mal fonctionner aussi dans d'autres sphères d'autorité. Donc c'est vraiment important dans cette gouvernance personnelle, c'est vraiment la base, c'est de nous dire, il y a un problème, il faut que je trouve la solution. Et peut-être vous allez trouver des solutions que personne n'a trouvées avant vous. Ça peut être des problèmes techniques, ça peut être des problèmes de logistique, mais il y a des problèmes que nous devons confronter, trouver la solution. Et ces solutions fonctionneront pour les autres domaines de notre vie. Alors je vous encourage vraiment à réfléchir à ça. On peut par exemple se demander aussi combien est assez pour vivre? Combien d'argent j'ai besoin pour vivre? Combien est suffisant? C'est une question que nous devons discuter avec le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer le jour où on gagne plus d'argent? Est-ce que je vais être moins dépendant du Seigneur parce que finalement maintenant j'ai ce qu'il faut? Ou est-ce que je vais devenir plus dépensier? Ou est-ce que je vais accéder à des choses que j'aurais pas dû? C'est des questions à se poser. C'est de l'ordre de la gouvernance personnelle. Alors j'aimerais vous encourager à prendre le temps de trouver des solutions dans vos vies. Et ces solutions fonctionnent dans d'autres domaines. C'est parce que des individus ont écouté Dieu qu'ils ont trouvé des solutions à des problèmes spécifiques, qu'ils ont apporté une part du royaume de Dieu dans la famille, dans l'église, dans la société et aussi dans l'économie. C'est parce que c'est tous les domaines qui sont impactés. Alors je vous encourage et je prie maintenant, Seigneur, que tu nous donnes vraiment cette vision que toi tu as. Seigneur, que quand tu parles des étendues, que tu parles de grandes choses, Seigneur, que nous puissions avoir la capacité de les voir comme tu vois, que nous puissions pas nous limiter à nos petits écrans et à notre faible capacité d'imaginer les choses, Seigneur, que vraiment nous puissions nous laisser ouvrir l'intelligence, ouvrir l'esprit, élargir nos limites par le Saint-Esprit, celui-même qui a ressuscité Jésus des morts. Et Seigneur, si tu nous confrontes à des problèmes, c'est pas juste pour nous pour nous embêter, c'est pas juste pour nous limiter, Seigneur, c'est pour nous aider à trouver des solutions, parce que toi, tu as les solutions pour nous. Aide-nous, Seigneur, à développer cette communion intime avec toi, où nous pouvons trouver, poser des questions et recevoir de toi les réponses dont nous avons besoin. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es celui qui a un plan, tu es un Dieu stratégique, et Seigneur, tu ne laisses pas les gens juste survivre, comme disait Denis, mais tu veux nous inviter à la vie en abondance. Seigneur, je bénis chacun ici, tu connais chacun, tu sais chacun où il en est, tu connais les problèmes spécifiques, et je te prie, Seigneur, que tu interviennes dans la vie de mes amis, de mes bien-aimés. Seigneur, nous voulons glorifier ton nom, et nous voulons que ton royaume s'étende dans ce monde. Amen.